Bonjour à tous. Alors nous allons continuer notre parcours de l'épître aux Éphésiens. Donc aujourd'hui on arrive sur le chapitre 6, donc vers la fin de cette épître. Il y aura une dernière prédication après sur ça et on aura fini toute cette série. Donc aujourd'hui on est sur les aspects très pratiques que Paul donne par rapport à la foi. Donc la semaine passée, on avait vu les relations entre mari et femme dans le mariage. Et aujourd'hui, on va voir l'application très concrète de notre foi dans nos relations familiales, mais aussi dans nos relations professionnelles. Donc il y en aura pour tout le monde, rassurez-vous. Alors, Michael disait la semaine dernière qu'il avait conscience qu'il allait peut-être marcher sur des œufs en abordant le thème des relations entre mari et femme. Alors, il se pourrait aussi que le sujet du jour soit délicat pour certains, dépendant de la situation que nous vivons, les uns et les autres. Mais je pense que c'est peut-être un petit peu moins touchy, un petit peu moins délicat. Que les relations de couple. Alors sans attendre, je vous propose de lire notre texte qui se trouve donc dans l'épître aux Éphésiens. Nous sommes maintenant au chapitre 6 et je vous propose dans un premier temps de lire les quatre premiers versets. On s'arrêtera dessus et ensuite on prendra les versets 5 à 9 dans un deuxième temps. Donc les premiers versets traitent donc des relations familiales, ici entre parents et enfants, et les versets suivants traitent des relations professionnelles entre patron et employé ou maître et esclave dans le contexte immédiat du texte. Donc Éphésiens 6, versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, père, n'exaspérez pas, ou n'irritez pas selon les versions, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Voilà, ce sont quelques versets qui sont très très clairs, très explicites. Et il y a quand même dans ces quelques versets des termes qui peuvent peut-être faire grincer des dents la société d'aujourd'hui. Il y a le verbe « obéir » qui est ici conjugué à l'impératif. Ceux qui ont peut-être un problème avec l'autorité ou qui prônent la liberté à outrance ont peut-être sans doute banni ce verbe de leur vocabulaire. Il y a aussi le verbe honorer. Honorer, c'est un verbe qui peut-être ne veut plus dire grand-chose dans notre monde occidental. Et rien qu'avec ces deux verbes, on pourrait peut-être se dire que ce texte peut-être n'est plus du tout adapté à notre contexte actuel et à notre époque. Si, en plus de ça, vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous êtes un adulte émancipé, à peu près indépendant, et que vous n'êtes pas vous-même parent, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'enfant, vous vous dites peut-être, là en fait je peux ne plus écouter. Je peux sortir mon téléphone, je vais scroller sur les réseaux. Et en fait, ce sujet ne me concerne pas. Je n'habite plus chez mes parents, ou alors je ne les ai plus. Je n'ai pas d'enfants, donc je suis dispensé d'écoute. Eh bien, détrompez-vous. Notre passage commence par le mot « enfant ». Enfant au pluriel. Bam, on pose le décor. Paul parle aux enfants. Paul s'adresse à un public précis, les enfants. Et pourtant, le terme grec qui est utilisé ici, qui est techna ou technon, ne désigne pas du tout des enfants en bas âge, c'est-à-dire des jeunes enfants. Il n'a pas une notion d'âge qui est indiquée ici, mais ça désigne plutôt un terme qui peut être remplacé par descendant. Donc sans notion d'âge du tout, que ce soit des descendants qui ont 3 ans, 5 ans, 20 ans, 25 ans, 60 ans. C'est la même chose. Nous sommes donc tous concernés, puisque enfants de nos parents, quel que soit notre âge. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Nous devons l'obéissance à nos parents. Mais alors, est-ce que à 25 ans, à 36 ans ou à 60 ans, si mes parents me disent de finir ma soupe sous peine de sanction, est-ce que je leur dois obéissance? Alors ça peut prêter à sourire, mais nous sommes tous dotés, je pense, de bon sens, et cette obéissance revêt peut-être plus une notion d'écoute attentive, écoute attentive de conseils, écoute de sagesse, et écoute des mises en garde que les parents peuvent faire. Vous remarquez aussi peut-être la limite qui est indiquée ici dans l'expression « dans le Seigneur » dans le premier verset. C'est une précision qui est, pour moi, je pense, selon la Bible, et qui est cruciale. Et Michael nous l'avait rappelé aussi la semaine dernière. L'obéissance ne veut pas dire asservissement aveugle, mais ça veut dire une réponse à l'autorité qui est déléguée aux parents. Je me tourne ici peut-être plus vers les jeunes qui vivent encore chez leurs parents. Il n'y en a pas beaucoup, peut-être, puisqu'ils sont à l'école du dimanche. Mais voilà, il y a une limite dans l'obéissance aux parents. Yes. C'est peut-être très réjouissant d'entendre ça en tant qu'enfant. Mais alors, quelle est cette limite? Vous avez le droit, vous avez le devoir de désobéir aux parents. C'est bizarre. Exemple concret. Les parents vous demandent de mentir. Les parents vous demandent de voler, de casser ce qui ne vous appartient pas. Ils vous demandent de tricher à l'école. Si vous obéissez aux parents, vous savez que vous allez désobéir à Dieu. Vous avez donc le droit de ne pas le faire. Un exemple concret, cette fois-ci en tant qu'enfant adulte. Si vous aidez vos parents à remplir leurs feuilles d'impôt et qu'ils ne vous demandent avec insistance de ne pas déclarer telle chose ou telle autre, donc en clair, de frauder le fisc, vous avez le droit de ne pas suivre cet ordre. Vous avez le droit de ne pas obéir. C'est un exemple très précis, hein, parce que on sait que nos aînés ont quelques difficultés avec Internet, peut-être. Et comme tout se fait maintenant sur Internet, les enfants ont de plus en plus tendance à aider, c'est normal, les parents. Si l'obéissance aux parents induit une désobéissance à Dieu, il vaut mieux désobéir aux parents. Demandons donc au Seigneur d'avoir du discernement dans les situations que nous traversons. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Pourquoi est-ce qu'il nous exhorte, ici Paul, à obéir à nos parents? Parce que cela est juste. Non pas que c'est juste selon les mœurs ou selon les coutumes locales. Non, c'est juste parce que c'est Dieu qui déclare que c'est juste. C'est ce qui doit être. Le terme grec utilisé ici est dikaios ou diakaios, et ça signifie littéralement approuvé par Dieu et qui observe la loi divine. En termes plus clairs, obéissez à vos parents car c'est le Seigneur qui vous le demande. Ça, c'est l'obéissance. On continue ensuite, Paul nous dit « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse, « afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre ». Alors, honorer, c'est surtout une attitude. Ça inclut le respect, la considération pour les parents. Alors, honorer ses parents en tant que jeune enfant, c'est avoir le plus haut degré de respect pour eux. Avoir du respect pour ses parents, ça forme également déjà l'enfant jeune à la vie en société. John MacArthur, qui est un théologien américain, il écrira « Celui qui grandit avec un sentiment de respect pour ses parents et leur obéit, possède en lui le fondement nécessaire pour le respect de l'autorité et des dirigeants, et pour celui de tout le monde en général. » Fin de citation. Le respect commence donc dans le cocon familial. Pour souligner encore l'importance de cette notion, John MacArthur va poursuivre. Le respect pour les parents est d'une importance si capitale pour Dieu que Moïse a ordonné « Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. » Et encore, « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » La maltraitance physique ou verbale était un crime capital dans l'Israël d'autrefois. Fin de citation. Ces deux versets-là qu'il a cités sont dans Exode 21 et dans Lévitique, j'ai pas noté, mais Lévitique 22, je crois. Dans notre société, la société moderne occidentale, de l'enfant roi, et de l'autorité parentale est un peu, voire beaucoup, mise à mal, nous devons de porter les valeurs de l'Évangile, valeurs de respect des parents, valeurs de respect de Dieu, valeurs de respect des autorités. Aujourd'hui, la société a tendance à inverser les rôles, c'est-à-dire que l'enfant, maintenant, a autorité, parfois sur les parents, et c'est terrible. Honorer ses parents, quand on est adulte, ça peut se traduire aussi par le fait de s'occuper d'eux, peut-être, de pourvoir à leurs besoins, comme ils ont pourvu aux nôtres lorsque nous étions plus jeunes, et de considérer leurs besoins comme étant primordiaux. Paul écrira, par exemple, plus loin dans l'Épître aux Philippiens, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et les autres, ça inclut donc aussi, et ça inclut surtout, les parents. Alors, je vais vous donner une petite anecdote culturelle. Pour ceux qui ne le savent pas, je n'ai pas grandi en France, mais à Madagascar. Donc, lorsque je suis arrivé en France au milieu des années 2000, j'ai été un petit peu choqué. Alors, le mot est fort, mais voilà, c'est pour le souligner. J'ai été un petit peu choqué par le mode de vie français et surtout la façon dont les aînés vivaient en France. Alors, c'était un choc culturel total. Je ne connaissais pas l'existence des EHPAD et j'étais aussi étonné de voir des personnes très âgées qui vivent seules. À Madagascar, et je pense aussi dans d'autres pays en Afrique, ou en Asie notamment, les parents vivent avec leurs enfants lorsqu'ils sont âgés, et il y a toujours une solidarité dans la famille, même lorsqu'il y a beaucoup de dépendance de la part du parent concerné. Donc en clair, à ma connaissance, il y a très peu, voire pas, d'établissements de fin de vie à Madagascar. Il me semble aussi que dans certains pays d'Asie, comme la Corée du Sud ou le Japon, il y a une culture du profond respect pour les aînés. Dans d'autres pays asiatiques, lorsqu'une fille se marie, sa mère emménage carrément avec le jeune couple. Ce qui est très bizarre. Hein. Mais le mari épouse une femme et embarque la mer avec. Tout ça pour souligner le fait que cette notion d'honorer ses parents est peut-être encore plus abstraite en Occident qu'ailleurs dans le monde, du fait des évolutions sociales et des évolutions sociétales, bien sûr. Alors voilà pour ce qui est des enfants. Paul va poursuivre ensuite avec le verset 4 en disant « Quant à vous, père, n'exaspérez pas vos enfants. » Dans d'autres versions, c'est « N'irritez pas vos enfants. » Mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Paul, il va équilibrer son exhortation en s'adressant au père, donc aux représentants de l'autorité familiale dans le contexte antique. Mais on peut aisément aujourd'hui aussi reformuler en disant « quant à vous, parents, quant à vous, pères, ou quant à vous, mères ». Ici, Paul les met en garde contre ce qui peut être une forme d'autoritarisme. N'exaspérez pas vos enfants. Il les encourage à les éduquer selon les voies du Seigneur. Alors le terme « irriter » ou « exaspérer » peut induire ici une notion de durée, de répétition, d'habitude. Une façon de faire qui peut être habituelle et continue dans le temps et qui, à un moment donné, peut donner lieu à un conflit ouvert entre parents et enfants. Alors il y a beaucoup d'exemples d'irritation qui peuvent y avoir dans les relations entre parents et enfants. On peut en lister quelques-unes. La surprotection de l'enfant, donc le fait de ne jamais lui donner aucune liberté. Le favoritisme, peut-être. La comparaison entre frères et sœurs. L'excès d'exigence, lorsque parfois on a des parents qui vivent par procuration et qui exigent des choses à leurs enfants au-delà du raisonnable. Peut-être le découragement aussi. Un enfant qui ne reçoit jamais de compliments, qui est toujours délaissé. La négligence, en donnant l'impression à l'enfant qu'il est de trop, qu'il n'a pas été désiré peut-être, et qu'il est un frein au développement personnel des parents. Il peut y avoir aussi la moquerie, lorsqu'on rit de la personne, on rit de l'enfant. Il y a peut-être aussi un chantage affectif. Je t'aime quand tu fais bien, je ne t'aime plus quand tu fais mal. Alors que dans l'obéissance ou dans la désobéissance, l'amour pour l'enfant doit rester le même. Et enfin, il y a peut-être aussi ce qu'on entend aujourd'hui beaucoup aux infos, la maltraitance physique ou la maltraitance morale. Alors, détrompons-nous, les parents chrétiens ne sont pas à l'abri de toutes ces façons d'agir. Parfois, on pense bien faire en protégeant l'enfant, et en fait, on surprotège. Parfois, en pensant encourager, on a des exigences un peu trop élevées. Et voilà, donc nous ne sommes pas à l'abri. Les parents chrétiens ne sont pas à l'abri. Je ne suis pas parent, mais les parents chrétiens ne sont pas à l'abri. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, il y a aussi ceux que nous côtoyons peut-être dans nos familles, ceux que nous côtoyons aussi dans l'Église. Prenons garde de ne pas les irriter en les ignorant, en se moquant d'eux, en ayant peut-être une exigence mal placée. Alors, après cette exhortation à ne pas exaspérer, donc une exhortation par la négative, Paul poursuit par ce qu'il faut faire. L'éducation chrétienne, elle, ne se limite pas à la discipline. Elle inclut l'instruction et l'avertissement, des termes évoquant un accompagnement peut-être bienveillant et éclairé par la parole. Les parents sont appelés à être des modèles de patience, des modèles de sagesse, des parents qui évitent les excès de sévérité et les excès peut-être aussi de laxisme. L'objectif ici est en fait de conduire l'enfant vers une foi personnelle et non pas de le contrôler. On n'est pas là pour contrôler les enfants, on est là pour les accompagner. Voilà ce qui est pour ce qui concerne les enfants et les parents. Vient ensuite la seconde partie de notre texte, où Paul aborde cette fois-ci les relations entre employés et dirigeants, employés-employeurs, ou alors dans le contexte immédiat du texte, on parle d'esclaves et de maîtres, où Paul exhorte chacun à travailler avec intégrité. Donc ce sont les versets 5 à 9 que je vous invite à lire maintenant. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, et avec un cœur sincère, comme au Christ lui-même. Ne travaillez pas seulement sous leurs yeux. Excusez-moi, je croyais que j'avais un autre texte. Comme pour plaire aux hommes, mais comme des esclaves du Christ qui accomplissent de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec une bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Et vous, maîtres, agissez de même envers eux. Abstenez-vous de les menacer, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et qu'il ne fait pas de favoritisme. On parle ici donc d'esclaves dans le contexte. Dans l'Empire romain, les esclaves, donc, qui représentaient à peu près un tiers de la population, étaient considérés comme des biens meubles, au même titre que les objets et les animaux. Alors Paul ne remet pas directement en cause l'institution de l'esclavage ici. On pourrait se dire, mais pourquoi ? En fait, c'était une révolution sociale qui peut-être était impensable à l'époque. Mais, par contre, il parle du présent. Il parle de la situation des esclaves. Il transforme radicalement la perspective du service. L'esclave est invité à travailler comme pour le Christ. Il ne va pas dire « rebelle-toi contre ton maître ». Non, la situation actuelle, il est dans la situation dans laquelle il se trouve, il est invité à travailler comme pour le Christ. Ce qui va transformer en fait sa condition par une obéissance libre, une obéissance volontaire. Son travail, quelque part, devient un acte d'adoration rendu de tout son cœur, comme il est dit au verset 6. Alors même si aujourd'hui on entend encore que l'esclavage moderne existe, encore sous d'autres formes dans certains pays, ce texte ici, je pense, peut parler aussi à tout employé ou subalterne dans notre société. Travailler avec intégrité, même dans des conditions injustes, témoigne de l'Esprit de Christ. Paul parle aussi aux employeurs, aux dirigeants. Il leur dit d'exercer l'autorité avec humilité. Paul rappelle aux dirigeants ici qu'ils sont eux-mêmes responsables devant Dieu. Un bon leader doit être juste, il doit éviter les abus de pouvoir, et il doit reconnaître la dignité de chacun. Aujourd'hui, ça s'applique à tous ceux qui ont une position d'autorité, que ce soit au travail, dans la famille ou ailleurs. Donc en pratique, écoutez vos équipes, soyez équitables dans vos décisions et reconnaissez que votre rôle est un service et non pas un privilège. Je vais conclure. Alors Paul souligne ici que aucun aspect de la vie n'est insignifiant aux yeux de Dieu. Que nous soyons parents, enfants, employés ou dirigeants, notre manière d'agir reflète notre relation avec Christ. Jésus lui-même a montré l'exemple en servant avec amour, même dans les situations les plus humbles. Alors peut-être que vous vous posez la question, vous allez vous dire, oui, mais c'est bien beau tout ça, mais tu ne connais pas mes enfants, tu ne connais pas mes parents, tu ne connais pas mes employés, tu ne connais pas mon patron. J'ai des enfants pénibles, j'ai des parents aigris, j'ai des employés ingrats et j'ai un employeur qui m'oppresse. Oui, c'est vrai. Ça peut être vrai dans les relations que nous avons. Nous avons peut-être des patrons qui ne nous considèrent pas. Mais pensons à Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous ? Est-ce que j'étais quelqu'un de méritant quand il est venu à moi ? Est-ce que j'étais quelqu'un de bien portant ? Non. Je pense que j'étais pénible. Je pense que j'étais aigri. Je pense que j'étais détestable. Et pourtant, Christ est venu. Et il m'a touché. Peu importe notre situation, nous pouvons glorifier Dieu en aimant et en servant ceux qui nous entourent. Même dans des systèmes tout à fait imparfaits, notre fidélité compte et Dieu promet de rendre justice un jour. Ce passage en fait, d'Éphésiens 6, versets 1 à 9, est comme un guide pour incarner notre foi de manière très concrète. Respecter par exemple les autorités avec sagesse, servir avec amour, même quand c'est difficile, travailler comme pour Dieu et non pour les hommes. Et dans un monde qui est marqué par l'individualisme et les abus, ces versets nous appellent à être des artisans de paix, des artisans de justice, là où Dieu nous a placés. Et puis, souvenons-nous enfin de la mission que Jésus nous confie, allez, faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations, ça commence par notre foyer familial, nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs. Toutes les nations aussi, c'est ceux que je côtoie au quotidien, que ce soit au travail, pour ceux encore qui n'ont pas encore le privilège d'être à la retraite, ou les voisins, ou les amis. En toutes choses et avec tous, soyons le reflet de l'Évangile qui a transformé nos vies. Et pour finir, en cela, peut-être, nous interpellerons peut-être sûrement notre entourage et pourrons leur témoigner extérieurement, de manière très concrète, cette nouvelle vie que nous avons reçue intérieurement. Amen.